Radio Okapi. Oh, Okapi.
Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres de votre journal. Un éboulement d'un puits d'or a tué 7 créateurs artisanaux jeudi dernier dans un site minier dans la commune rurale de Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Le bourgmestre de cette commune demande aux orpailleurs de respecter les normes requises pour ne pas s'exposer à la mort. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside du 28 au 29 décembre courant la conférence des gouverneurs ici à Kinshasa. Une conférence qui a lieu pendant que certains gouverneurs sont menacés de déchéance et d'autres issus du Front commun pour le Congo FCC ont décidé volontairement d'adhérer à l'Union sacrée de la nation prônée par le président de la République. Madame Fifi Likunde, chef des divisions chargées de la foresterie communautaire au ministère de l'Environnement, viendra nous parler de la question des défis dans ces domaines qui voient la province de la Tchopo ne disposer que des 3 concessions forestières communautaires seulement, malgré que cette province soit couverte totalement de la forêt. Bienvenue à toutes et à tous. À Nitouri, nous venons de l'apprendre. 7 créateurs artisanaux d'or sont morts dans un éboulement qui s'est produit jeudi dernier au site minier d'environ 20 mètres de profondeur dénommé Grec dans la commune rurale de Mungwalu, dans les territoires de Djougou. Le bourgmestre de cette entité rapporte que d'autres orpailleurs ont été mobilisés pour extraire leur corps, mais sans succès jusqu'à ce jour. Jean-Pierre Bikilisende précise que les bois qui ont été placés par les victimes pour soutenir le mur du puits ont cédé, ce qui est à l'origine du drame. Il demande aux orpailleurs de respecter les normes requises afin de ne pas s'exposer à la mort. Il est joint au téléphone par Isaac Remoyope.
Il y a eu éboulement au site minier qu'on appelle Crec, des orpailleurs qui sont enfouis dans le sol, mais jusque-là, on a réussi à dégager un corps. Ils avaient fait les installations avec du bois. Ces installations ont cédé sous le poids de la terre. Depuis 3 jours que nous sommes en train de dégager la terre, ça ne marche toujours pas. Même en ce moment, nous avons mobilisé la police, les chefs des avenues, des quartiers, les chefs des localités, des voisins là. Et la fouille continue. Vous voyez, depuis la nuit du 24 au 25, 0 heure, nous sommes aujourd'hui le 27, et puis une terre instable, il y a l'infiltration des eaux. En tout cas, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. Donc, ce que nous demanderons à nos orpailleurs, c'est que quand ils veulent creuser de l'or, premièrement, ils doivent tenir compte de leur sécurité, la sécurité technique. Donc, mettre des installations solides et veiller à ce que ces installations tiennent debout. Et aussi, vérifier à tout moment, dès qu'il y a des indices de faiblesse de ces installations, là, de dégager le site.
À Nitouri toujours, les FRDC sont accusés de procéder à des arrestations arbitraires de jeunes dans les chefferies des Mobala et des Adisoma à environ 45 km au sud-ouest de Bounia dans les territoires du Rumo. Selon des sources locales, ils sont soupçonnés d'être des miliciens de la force patriotique intégrationniste du Congo, FPIC, ce qui oblige la jeunesse à vivre dans la clandestinité dans cette entité. Le porte-parole de l'armée à Nitouri rapporte que cette opération vise à dénicher les présumés miliciens qui se dissimulent dans la communauté. Isaac Remoyope.
Selon des sources concordantes, les militaires des FARDC circulent chaque jour dans les villages en chefferie de Mobala et Andisoma pour traquer les jeunes. Les derniers cas, c'est ce dimanche matin où 2 jeunes ont été appréhendés dans leur parcelle en train de déjeuner. À ces jours, des dizaines de jeunes sont déjà aux arrêts à l'état-major de l'armée à Marabo, précise des sources locales. Elles dénoncent ce qu'elles qualifient de chasse à l'homme, ce qui a comme conséquence de nombreux jeunes ont fui pour s'installer ailleurs. D'autres se cachent dans des maisons et sont contraires à l'oisiveté. Contactez les porte-parole des FARDC à Nitouri indique que ceux qui sont arrêtés sont des suspects identifiés par les services de renseignement militaire. Le lieutenant Gilles Ngongo demande aux habitants de garder l'air calme et de collaborer avec l'armée pour dénicher les présumés rebelles qui se cachent dans la communauté.
Il y a les éléments de la milice Tshinyakilima au sein de la population, au sein de la jeunesse. Ça, c'est évident. De deux, lorsque nous arrêtons ou nous cherchons les éléments de cette milice au sein de la population, nous avons les informations fiable et que cela ne puisse pas semer la peur au sein de la population innocente. Nos cibles, c'est ceux-là qui se diffuse dans la population, ces chefs-là doivent à tout prix dénoncer.
Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Nous venons de l'apprendre, dans la province de Lomami, 14 détenus de la prison centrale de Mouné-Ditou ont été libérés le mercredi dernier par le parquet près du tribunal d'épée de Mouné-Ditou. D'après les directeurs de cette maison carcérale, qui se réjouit de cette libération, affirme que ces gestes s'inscrivent dans le cadre du désengorgement de cette prison. Des explications, Esther Ndalafina.
Ces libérations tombent à point nommé, affirment certaines organisations de la société civile. Ces détenus ont été libérés 48 heures après leur cri d'alarme à l'endroit du président de la République dénonçant les mauvaises conditions de détention. Ils ont déploré également la non-organisation des audiences suite au manque de juges au tribunal de paix de la ville ferroviaire. Leur cri de détresse a par la suite été relayé par le gardien de cette maison carcérale. Saisi du dossier, le premier substitut du procureur près le tribunal de paix n'est pas resté indifférent. C'est ainsi qu'après examen des dossiers, les détenus poursuivis pour des faits bénins ont été libérés. Jules César Mouit Mupong, directeur de la prison centrale, se réjouit de ce geste et remercie les autorités pénitentiaires.
J'ai été chargé, on m'a déchargé. Mes félicitations, mes remerciements vont tout droit à ceux-là qui a eu bonne foi de me décharger. Dieu vit sur les papiers de libération, tous, presque la majorité, avec habit de confiance et vol simple. Je suis en train d'étudier droit, quelle catégorie qui reste, qu'il continue à désengorger. Maintenant, je fais une liste, je dépose chez lui, je vais descendre les voir, je vois, il va les relaxer.
Construite pour près de 50 personnes, la prison centrale de Mouné-Ditou compte actuellement plus de 150 détenus, dont une trentaine de condamnés. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
À Kananga, au Kasaï central, trois personnes suspectes sont tombées ce dimanche dans le filet de la police nationale. Il s'agit de deux policiers en tenue civile avec une arme à feu et d'un sujet tanzanien sans document. Ces trois suspects disent qu'ils se rendaient à Kikwit et à Kinshasa. Les autorités de la police urbaine demandent ici à la population de redoubler la vigilance en cette période des fêtes en dénonçant tous les suspects. Plus de détails, Blaise Ndongala Mayanda.
Les éléments de la police nationale ont réussi ces coups de filet au parking Ilunga Chimbangu après que ces trois suspects ont été dénoncés par la population. Ceux des policiers en tenue civile et leur accompagnateur tanzanien avaient déjà pris place à bord d'un camion qui se rendait à Chikapa. Ils ont été démasqués lors du contrôle de tous les passagers. Les deux policiers ont dit qu'ils se rendaient à Kikwit sans en avoir exhibé les brevets. Et leur accompagnateur, les tanzaniens, sans document, affirmaient en swahili être en partance pour Kinshasa à la recherche de son frère qui n'a ni adresse. Les agents du parking ont fait appel aux agents de l'ordre qui ont décidé de fouiller leur sac. C'est alors qu'ils ont découvert une arme à feu, des pièces et des tenues de la police. L'un des policiers dit provenir du groupe mobile d'intervention de Lubumbashi et l'autre de celui de Kazumba Lessa. Ces trois suspects sont encore gardés au cachot de la police d'intervention. Et les autorités de la police urbaine ont aussi demandé à la population de redoubler la vigilance en cette période des fêtes de fin d'année en dénonçant tous les suspects. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Après avoir pris publiquement position en faveur de l'union sacrée de la nation, le leader des Ensembles pour la République, Moïse Katumbi-Chapwe, et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, sont venus rencontrer ce samedi 26 décembre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres détails avec vous, Alain Yurung.
Le président de la République et ses hôtes ont eu un échange en toute convivialité de plus de 3 heures à son bureau privé de la Cité de l'Union africaine, souligne la presse présidentielle. Les deux invités du chef de l'État n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse à l'issue de leur entrevue, mais l'on croit savoir qu'ils ont évoqué les grandes questions politiques de l'heure, notamment la matérialisation de l'union sacrée de la nation qu'ils souhaitent, affirme la presse présidentielle. Cette séance de travail a été précédée par une série d'audiences que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à près d'une centaine de députés respectivement des regroupements ADRP-MSR, AAB, CODE et une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le FCC pour adhérer à l'Union sacrée de la nation, note la presse présidentielle.
Et puis, on vient de l'apprendre, le gouverneur du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, vient d'adhérer à l'Union sacrée de la nation avec son gouvernement provincial. Dans un communiqué publié ce dimanche à Kinshasa et parvenu à Radio Okapi, le gouverneur du Sud-Ubangi, Moïse Dubangui affirme qu'il va participer à la mise en œuvre des réformes initiées par le chef de l'État. Il se conforme ainsi à la décision de son regroupement politique de la coalition des démocrates en sigle code d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, est le thème de la première conférence des gouverneurs qui se tiendra du 28 au 29 décembre à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux auront lieu pendant que certains gouverneurs sont menacés de déchéance et d'autres issus du Front commun pour le Congo FCC ont décidé volontairement d'adhérer à l'Union sacrée de la nation prônée par le président de la République. Des explications, Esther Ndalafina.
Depuis son élection à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a pour la première fois échangé le 13 mai 2019 avec les gouverneurs de province dont la majorité était issue de la coalition politique pro-Kabila, Front commun pour le Congo, FCC. Cette rencontre avait pour but d'aligner leur programme sur la vision du nouveau chef de l'État. À cet effet, il a exigé un comportement exemplaire des nouveaux gouverneurs de province en les mettant en garde contre la corruption et les tracasseries. Félix Tshisekedi avait proposé de conclure un contrat-programme entre les gouverneurs et l'exécutif national, lequel acte constituerait un cadre d'évaluation trimestrielle de la gestion et des performances de chaque gouverneur, décision jamais exécutée. Mais certains observateurs estiment que la mise en application de cette disposition pouvait tant soit peu mettre certains gouverneurs à l'abri de la mégestion et la malversation financière décriée actuellement par les assemblées provinciales, signalant que la loi portant modalité et organisation de la conférence des gouverneurs stipule que la conférence des gouverneurs participe à la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces d'une part et celles-ci entre elles d'autre part. C'est pour ces raisons qu'elle doit se tenir deux fois l'an. Rappelons que la dernière et sixième conférence des gouverneurs s'est tenue sous la houlette du président honoraire Joseph Kabila du 18 au 19 décembre 2017 à Goma, dans le Nord Kivu. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
La population de la province du Haut-Uele appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à visiter cette partie du pays afin de palper du doigt la réalité qu'elle vit et aussi réhabiliter le pavillon de la prison dans laquelle était incarcéré Étienne Tshisekedi à Mulumba. C'est ce qui ressort, entre autres, de la restitution faite à la presse ce dimanche 27 décembre ici à Kinshasa par la délégation chargée de transférer la dépouille du sénateur Lola Kisanga dans sa province natale. Antoine Abiba Fanina, l'un des conseillers du chef de l'État et président de cette délégation, ajoute que cette même population demande au chef de l'État de booster la construction du sanctuaire dédié à Annualité Ningapeta. Antoine Abiba Fanina l'a dit à Paul Matendo.
La population était totalement affligée par la perte de leur icône politique, mais cette même population, nous avons compris qu'elle a été soulagée par le mode de consolation du chef de l'État par notre présence d'abord physique. Dans tous les modes et circonstances, il revenait sur la grandeur d'âme du chef de l'État. Et nous a transmis leurs doléances dont la primaire lui est réservée. En dehors de leur cahier de charges nous transmis, il disait même que s'il peut encore veiller sur le cinquantenaire de la sœur Annualité, pour laquelle d'ailleurs on est en train de construire un sanctuaire. Si le chef de l'État, dans sa magnanimité, là, il peut toujours booster cette opération-là. Parce qu'il cessait de nous rappeler que c'est dans leur province que Papa Étienne, d'heureuse mémoire, a été incarcéré. Et il trouvait vraiment nécessaire que le chef de l'État, qu'il vienne au moins le visiter.
Au Nord Kivu, 8 familles locataires des maisons de l'État du camp administratif de Mabolio de la commune d'Embeu dans la ville de Beni viennent d'écrire au président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu pour dénoncer une tentative de désaffectation en violation de la loi de ces domaines de l'État. Ces familles des agents de l'État qui disent craindre leur déguerpissement souhaitent l'intervention de cette autorité provinciale. Martial Papimoukeba pour les détails.
Dans cette lettre, Ces familles des agents de l'État disent être locataires du camp administratif de Mabolio de Beni depuis plus de 22 ans en payant les loyers auprès du service habilité. Mais à leur surprise, disent-elles, depuis le mois d'août dernier, les agents du service du cadastre sont descendus sur les lieux pour placer des bornes sur ces domaines publics de l'État non encore désaffectés par l'autorité compétente. Par conséquent, les signataires de cette lettre demandent au président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu de prendre en main ces dossiers. En effet, dans sa lettre du 29 juillet 2020, la vice-gouverneure du Nord Kivu avait demandé aux conservateurs des titres immobiliers ainsi qu'aux chefs de division des cadastres de la ville de Beni de faire droit à la demande des terres de l'école officielle d'application pédagogique et d'APISP de Wicha. Selon les sources officielles, c'est le camp administratif de Mabolio situé dans la commune de Beou en ville de Beni qui aurait été identifié pour la cause. Mais les occupants de ces cas souhaitent le respect des procédures en matière de désaffectation d'un domaine public de l'État. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, ont été tuées ce dimanche 27 décembre dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du Cameroun. Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés, a annoncé Moetsoug Mempou-Polin, commissaire de la sécurité publique des Dikibineki, les lieux où l'accident est survenu en plein minuit. Une femme de 78 ans a été dimanche 27 décembre la première personne vaccinée en France contre le Covid-19 à l'hôpital René Muret de Sévran en Seine-Saint-Denis, selon une journaliste de l'AFP sur place. Je suis ému, a déclaré cette femme, Morissette, une ancienne aide ménagère vaccinée vers 11h au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement dépendant de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Une vingtaine de personnes âgées et des soignants doivent être vaccinées dimanche lors du lancement symbolique de la campagne vaccinale française à Sévran puis Dijon.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le ministre de l'Environnement a organisé le samedi 26 décembre une réunion d'information et d'échange sur le processus de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel Le Triangle en présence du vice-gouverneur des provinces, Maurice Abibou Sakapela. D'après des informations recueillies sur place, la province de la Tchopo, couverte entièrement par la forêt, ne dispose actuellement que de 3 concessions forestières communautaires seulement. Madame Fifi Likunde, chef de division chargée de la foresterie communautaire au ministère de l'Environnement, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Madame Fifi Likunde, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'une superficie de 199 567 km², la Tchopo est totalement forestière. Vous l'avez dit, sa biodiversité est certes riche. Peut-elle contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations?
Bien sûr, parce qu'elle a une grande superficie. Et la loi détermine que les communautés peuvent demander leurs espaces protégés régulièrement en vertu de la coutume. Donc si la gestion et l'exploitation de ces concessions forestières des communautés locales est faite d'une manière dans le strict respect de la procédure, les choses vont aller vite et ça va vraiment changer la situation de nos communautés locales.
Cela est-il possible dans notre province de la Tchopo, quand on sait que présentement il n'y a que 3 concessions forestières communautaires qui sont attribuées?
Nous sommes dans la phase expérimentale et je pense qu'on continue avec la sensibilisation. Et les autres, vous avez entendu le point focal foresterie communautaire dans la province de la Tchopo dire qu'il y a eu des demandes d'accompagnement. Ce qui manque, c'est l'accompagnateur, la communauté et l'administration n'a pas de moyens pour accompagner les communautés dans le processus de la foresterie communautaire. Il faut des moyens pour accompagner. Donc ici, il y a eu quand même quelques recommandations pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner aussi ces communautés qui demandent leur concession forestière de communauté locale.
Oui, ces concessions forestières, madame, sont confrontées à certaines difficultés, elles font face à certains défis et menaces. Quels sont les plus manifestes?
Dans la province de la Tchopo, il y a quand même quelques violations dues peut-être à la mauvaise interprétation des textes. Il y a quelques recommandations qu'on a dans cet atelier où nous avons dit qu'il faut renforcer cette capacité des autorités politico-administratives au niveau provincial et local pour permettre à ce que les choses avancent mieux.
Pensez-vous que cela soit vraiment un antidote pour que les choses marchent pour le mieux, comme vous l'avez dit?
Nous le pensons et nous pouvons espérer. Vous savez que le développement, c'est au milieu local. Quand ça commence du bas, des pyramides, de renverser, vous verrez que les choses vont aller jusqu'au niveau national. Donc, dans le plan local de développement, si les communautés sont conscientisées, vous verrez que les choses vont aller mieux. Vous verrez même que l'exode rural vers les zones, les villes vont changer et que les gens vont rentrer dans leur milieu naturel ou soit dans leur village pour voir comment travailler et améliorer leurs conditions de vie à partir de là.
Quel message pouvez-vous adresser aux communautés locales et même aux partenaires techniques et financiers à cette occasion?
À cette occasion, je demande simplement aux communautés locales que la foresterie communautaire, lorsque j'avais dit, c'est un levier de développement, mais c'est aussi un processus. Un processus est long et lent, mais on arrive toujours à atteindre les objectifs. Et les partenaires, d'aider réellement les communautés, tout en respectant la vision de l'État, de prioriser la vision de l'État au lieu de prioriser les exigences de leurs bailleurs. Je pense qu'il faut dissocier les deux pour réussir à atteindre les objectifs de la foresterie communautaire en RDC.
Madame Fifi, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal sur la fréquence de la paix. Merci à Polydore Basunga qui l'a mise en nom de Alain Rungete à la coordination sous la supervision de Julien Nyamouini. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un bulletin d'information. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix.